Bonjour amis auditeurs de Radio Grand Ciel et bienvenue dans notre émission consacrée à l'art, l'histoire et l'iconographie chrétienne. Aujourd'hui, nous allons plonger plus dans l'histoire et nous allons surtout parler de la conservation et de la restauration de la pierre et des vitraux dans les monuments historiques. Et pour aborder ces questions aussi intéressantes que complexes, nous avons le plaisir et l'immense joie de souhaiter la bienvenue dans notre studio à Monsieur Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques. Bonjour Monsieur Calvel.
Bonjour Madame.
Je vous souhaite la bienvenue donc dans notre émission. Et peut-être serait-il bon d'expliquer à nos auditeurs quels sont ou quelle est la fonction d'un architecte en chef des monuments historiques.
Bien, un architecte en chef des monuments historiques est un fonctionnaire du ministère de la Culture à la direction de l'architecture et du patrimoine qui est en charge des monuments historiques d'un département, tout d'abord des monuments appartenant à l'État et des monuments appartenant aux autres propriétaires publics ou privés dans un contexte scientifique tout à fait particulier puisque ce sont des missions à la fois de surveillance, de conseil, d'études et de maîtrise d'œuvre, de réalisation des travaux. Donc nous suivons au long cours les monuments, nous déterminons en concertation avec notre administration qui comporte des conservateurs du patrimoine chargés du mobilier, un conservateur régional par région bien entendu, qui gère, si je puis dire, les cordons de la bourse au sein des DRAC, en l'occurrence pour notre région, la DRAC est à Orléans.
Donc direction régionale des affaires culturelles.
Direction régionale des affaires culturelles, celle de la région centre est à Orléans, celle de Midi-Pyrénées est à Toulouse par exemple, enfin il y a une DRAC par région, donc 21 DRAC dans 21 régions. Et nous sommes, après avoir passé un concours un petit peu particulier, puisque nous sommes un des grands corps techniques de l'État, nous sommes mis en charge par le ministère de la Culture de circonscriptions archéologiques qui sont calquées, en l'état actuel des choses, sur les départements.
Donc les DRAC représentent l'État.
La DRAC est l'organisme déconcentré du ministère de la Culture en région.
Et voilà. L'État en France est donc le propriétaire des cathédrales.
Des cathédrales, d'un certain nombre de monuments. L'État est propriétaire de 800 monuments. Vous savez que dans le cadre de la décentralisation, il essaye d'en redistribuer à diverses régions. Par exemple, le château de Chaumont a été repris par le conseil régional.
Oui, de toute façon, donc la DRAC, elle est responsable
Elle est responsable, en fait, si vous voulez, de tous les départements, de toutes les directions. Il y a au sein de la DRAC une mini-direction représentant chacune des directions du ministère, qui étaient 8 jusqu'à ce jour, qui seront 3 à partir de cette année dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Mmh. Mais pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, l'État lui-même est propriétaire de 800 monuments.
Dans toute la France,
qui sont d'abord et avant tout les cathédrales, un certain nombre de châteaux, pas mal d'édifices privés, la plupart des ministères, bien entendu, qui sont des grands hôtels parisiens, et des monuments préhistoriques aussi. Par exemple, moi, au titre de l'État, je suis en charge dans notre région, dans notre département, puisque je suis en charge de l'Eure-et-Loire, de la cathédrale de Chartres, du château de Châteaudun et de Fort-Arroire, qui est un monument mégalithique où j'ai très peu eu à aller en 12 ans. Voilà.
C'est très peu connu. J'avoue c'est un site que je ne connais pas. Mais vous êtes aussi responsable de la cathédrale d'Albi.
Alors oui, en région Midi-Pyrénées, je suis responsable du département du Tarn, donc de la cathédrale d'Albi, qui est le seul monument propriété de l'État dans le département du Tarn.
Et alors, quand il y a de grands travaux à mener dans une cathédrale, par exemple, on voit actuellement à la cathédrale de Chartres cet immense échafaudage côté sud. Qui décide de ces travaux? Comment est-ce que cela se passe quand on constate un désordre ou la nécessité de...
Nous sommes deux à pouvoir constater les désordres. L'architecte des bâtiments de France, qui en est le conservateur, puisqu'il a le statut de conservateur des monuments propriété de l'État, en particulier de la cathédrale. Il y passe évidemment régulièrement, puisque lui est astreint en résidence dans le département, et moi-même, parce que j'y suis aussi pratiquement toutes les semaines. Donc nous le surveillons en permanence, nous le voyons en permanence. Nos prédécesseurs nous ont transmis leur propre expérience du monument parce que mon cher ami Paul Trouilloux, qui est maintenant parti à Versailles, a très longtemps surveillé la cathédrale. Nous avons beaucoup échangé dessus. Donc nous sommes absolument au courant de tous ces problèmes. C'est miraculeusement, la cathédrale de Chartres, finalement, n'a pas de problème grave. Elle n'a pas de problème de structure, elle tient debout, elle n'est pas menacée, mais elle a des problèmes d'usure, de fragilité due à l'augmentation de la pollution, qui fait que nous, sans cesse, nous interrogeons et que nous la surveillons. Et quand le moindre problème apparaît, à ce moment-là, nous nous réunissons, l'ABF, moi-même, les gens de la conservation du patrimoine à la DRAC, et nous faisons les propositions. Je fais, en tant qu'architecte en chef, les propositions de travaux nécessaires que j'ai déjà évoquées avec l'architecte des bâtiments de France conservateur. Et à partir de là, nous mettons en place les études scientifiques et techniques nécessaires. Nous mettons en place les programmations financières. Et puis, petit à petit, ça se lance. Donc, les travaux qui ont lieu actuellement découlent d'une étude extrêmement importante que j'ai faite sur la totalité de cette façade il y a déjà plus de 4 ans.
C'est une œuvre de longue haleine. Et
c'est
puis
une œuvre de très longue haleine.
Aussi, et sans doute un grand
financements,
problème.
Évidemment. Les financements, il faut les mettre en place. Il faut s'assurer qu'on puisse les avoir. On attend quelquefois très longtemps parce que vous connaissez les conditions économiques de notre pays actuellement. Mais si vous voulez, et ensuite, il y a aussi les études que je fais qui font l'objet d'une approbation, si vous voulez, d'un passage dans un cycle de contrôle scientifique par l'Inspection générale des monuments historiques, qui confirme, en général, elle n'affirme jamais tout à fait, mais qui confirme en règle générale les études que j'ai faites, les propositions que je fais, et demande éventuellement quelquefois d'accentuer telle ou telle phase. C'est un contrôle, si vous voulez, scientifique qui s'impose. C'est-à-dire que l'architecte en chef n'est pas un bonhomme tout seul.
Vous êtes entouré d'entreprises.
Voilà. C'est encore autre chose. Ça vient après. Mmh. Il y a d'abord une collectivité scientifique autour de la DRAC et de l'Inspection générale des monuments historiques, qui dépend directement de la DAPA au ministère. Et quand l'étude est approuvée, on programme les financements. Je fais le projet qui est un DCE, c'est-à-dire un dossier de consultation d'entreprise, qui lui est lancé dans un appel d'offres qui respecte le code des marchés publics et qui est ouvert en séance plénière à la DRAC avec la concurrence et les prix, enfin avec toute la complexité. Les choses sont extrêmement claires, extrêmement précises, et de là découle le choix des entreprises qui interviennent.
Et voilà. Quel est le rôle des mécènes, puisque on va aussi
alors
parler
les
de la
mécènes eux vitraux. Interviennent en parallèle et souvent avant, parce que les mécènes ont leur propre logique, si vous voulez, et souvent ils interviennent sur l'incitation de leur propre goût, de leur propre passion, et aussi des relations qu'ils ont avec les associations qui les sollicitent beaucoup et avec raison.
Chers auditeurs de Radio Grand Ciel, après ce grand plein jeu de la suite improvisée de Pierre Cochereau, joué par Olivier Mingui aux grandes orgues de Chartres, nous voilà à nouveau donc dans le studio avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques, et nous étions en train de parler des problèmes d'organisation et de financement des grands travaux menés dans les monuments historiques. Et nous étions en train de parler du rôle que peuvent jouer les mécènes, justement, pour déclencher ces travaux. Et c'est l'occasion de parler des deux associations qui agissent à Chartres, pour la cathédrale de Chartres, les Amis de la cathédrale, sous la présidence de Madame Payot, et Chartres Sanctuaire du Monde, une association à vocation internationale qui cherche aussi des fonds sous la présidence de Servan Delair Mathéus. Donc, quel est le rôle des mécènes dans l'entretien, la restauration des vitraux? Parlons de Chartres, peut-être.
Eh bien, le rôle des mécènes, c'est qu'ils nous font l'honneur, ils font l'honneur à la cathédrale d'apporter de l'argent qui nous permet de réaliser les travaux à partir des études que nous avons pu faire au titre des besoins de la cathédrale. Donc, ce sont ces deux associations extrêmement actives qui sollicitent les mécènes. L'argent que les mécènes consentent à distribuer aux monuments, et on doit absolument les en remercier, est ensuite transmis à l'État par les associations, et nous pouvons à ce moment-là commencer des travaux, puisque cet argent va servir à payer effectivement les entreprises, qui, en particulier les maîtres verriers, toutes les équipes de maîtres verriers qui travaillent sur la cathédrale. En règle générale, pour simplifier, tout ce qui relève du rôle régalien de l'État, c'est-à-dire la recherche, les études menées par le fonctionnaire du ministère qui est l'architecte en chef, sont rémunérés, directement payés par l'État, et on ne peut généralement lancer ces travaux que grâce au mécénat, surtout, je le répète, dans la conjoncture actuelle. Donc le rôle des mécènes est absolument fondamental dans le maintien, dans la conservation actuellement de notre cathédrale.
Alors, qui détermine ensuite quel vitrail sera restauré? Les mécènes, parfois, ils mettent le souhait?
Non, oui, ils choisissent évidemment un vitrail parce que le thème leur parle plus à titre personnel, si vous voulez. Mais c'est un vitrail qui a des besoins. Dans la conjoncture actuelle du monument, tous les vitraux ont des besoins, du moins tous les vitraux que mes prédécesseurs et moi-même n'avons pas encore restaurés depuis une quinzaine d'années. Donc, puisque les vitraux de Chartres n'ont plus été restaurés, n'ont plus été touchés, sauf des points accidentels, surtout en partie basse, pratiquement depuis la repose de 1947, après la dépose de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il y a eu une énorme campagne de dépose des vitraux en 1939, et heureusement, parce que la ville a quand même été très bombardée à cause du terrain d'aviation, et vous savez les ravages que ça a fait en centre-ville.
Oui, quand les Américains ont bombardé la base.
Imaginez les ravages qu'auraient fait les souffles de cette explosion, de ces explosions. Donc par bonheur, ils avaient été déposés, ils ont été reposés entre 1946 et 1947, largement reposés par les équipes de l'atelier Lorrain.
Donc on en a profité pour les restaurer avant la repose.
On a fait une restauration, mais une restauration rapide. On a surtout changé les plombs, mais on n'est pas entré vraiment. Et on n'avait pas encore les instruments, si vous voulez, scientifiques qu'on a maintenant. Il y avait une urgence de repose, un besoin aussi psychologique de repose rapide, de retrouver l'unité de ce monument extraordinaire qui devenait un phare dans une ville qui avait souffert, et il était absolument nécessaire de les remettre en place. Et puis l'histoire a fait que d'autres impératifs sur d'autres monuments de l'État, à une époque surtout le mécénat n'intervenait pas du tout, fait que d'autres monuments ont été privilégiés, parce que c'est vrai que la cathédrale de Chartres a toujours eu l'air en parfait état. On en parlera après avec les matériaux.
Justement, donc les vitraux du portail royal ont été restaurés dans les années 70.
Les vitraux
du portail royal.
Alors il y a eu en fait au début des années 70 des premières interventions ayant un caractère scientifique précis à cause des avancées dans le domaine de la chimie des matériaux de protection.
Grâce au laboratoire à Champs-sur-Marne.
Grâce au laboratoire de Champs, et on a fait des expérimentations. On a traité en particulier les grandes verrières avec un produit consolidant qui s'appelle le Viacryl, dont on a vérifié, si vous voulez, l'impact qu'il y a très peu de temps, qu'il y a 2 ans, On voulait le suivre de façon beaucoup plus régulière, mais tout ça, ce sont des protocoles qui sont difficiles à mettre en place parce que coûteux aussi. Donc en réalité, on a réussi à faire, il y a seulement 2 ans, une intervention de vérification qui, je dois le dire, était à l'initiative de Paul Trouilloux, nous en avions parlé, mais qui s'inquiétait beaucoup justement de voir comment ce matériau avait évolué.
Et alors, comment est-ce qu'il avait évolué?
Il a évolué, il s'est tout simplement sublimé aux ultraviolets, il a totalement disparu, il n'en reste que de fines traces là où les ombres portées de la fine des armatures en fer forgé se sont maintenues, donc vous voyez.
D'accord, donc il faut intervenir d'urgence à nouveau sur ces vitraux.
Il faut de nouveau, je dirais pas d'urgence, mais il faut intervenir parce que la pollution s'est aggravée dans des proportions monstrueuses, puisque on le compare souvent avec les photos anciennes, mais on voit très bien la statuaire photographiée par les missions photographiques du 19e siècle ou du début du 20e siècle.
Beaucoup de vitraux.
Jusqu'aux années 50, la statuaire, les vitraux ne bougent pas, surtout la statuaire. Les vitraux, c'est moins perceptible à l'œil nu, pas en photo. Mais la statuaire, c'est évident, entre le 19e siècle, entre les photos de Le Sec et les photos faites immédiatement après-guerre, il n'y a pratiquement pas d'évolution. Et puis entre les années 50, 60 et aujourd'hui, le début du 21e siècle, on a une aggravation de ce que nous appelons la dissolution des matériaux, qui est absolument...
Alors parlons du vitrail, justement. Comment agit le verre ou réagit le verre du Moyen-Âge? C'est un verre sodique ou un verre potassique?
Voilà.
Donc il y a une composition chimique qui détermine un peu le processus de corrosion.
Exactement.
Parlez-en, vous êtes un spécialiste.
Vous avez tout dit, mais si vous voulez, la dissolution, la décomposition de la masse vitreuse se fait essentiellement par l'extérieur, puisque les produits polluants viennent par l'atmosphère, de façon climatique sur l'extérieur. Il y a des dépôts et des réactions chimiques qui se font en surface de la masse vitreuse et dans le cœur de la masse vitreuse, en particulier le fameux brunissement.
Oui, des verres à manganèse. Donc c'est l'oxyde de manganèse qui se corrode.
L'oxyde de manganèse qui se transforme à travers des micro-fissures qui se sont faites justement par l'altération en surface externe de la masse vitreuse. Et l'altération du manganèse est en fait un virage qui transforme, si vous voulez, la masse vitreuse
de couleur rose.
Voilà, qui est rose ou plus claire, mais oui. ça joue beaucoup sur les visages. Mmh. Vous avez des tons de chair. Là, vous avez les visages deviennent littéralement marrons.
Oui.
C'est un des processus de corrosion. Les autres processus, c'est la transformation du gypse qui le piquage et les cratères qui se font sur la surface.
Donc il y a des trous qui se forment à l'extérieur.
Il y a des trous qui se forment à l'extérieur, mais surtout ces trous sont accompagnés aussi de micro-fissurations. Donc il y a un affaiblissement, si vous voulez, de l'épaisseur de la masse vitreuse, mais c'est très variable en fonction effectivement de la composition.
Une petite pause musicale. Amis auditeurs de Radio Grand Ciel, nous revoilà dans le studio avec Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques. Nous étions en train de parler du processus de corrosion et d'altération des vitraux de toutes les cathédrales, là où il y a encore des vitraux médiévaux. Oui. Et on disait qu'il fallait intervenir avec rapidité, car la pollution de l'air accélère tous ces processus.
Il y a une accélération exponentielle de la pollution, effectivement, même si on prend de plus en plus de précautions et que toute notre société s'interroge là-dessus. Il n'en reste pas moins que le processus d'altération des vitraux est irréversible. Donc le problème, c'est de le stopper, parce que les vitraux sont de la masse vitreuse est déjà très altérée. Donc il faut absolument stopper ces processus de corrosion que chaque pièce de vitrail affronte en fonction de sa propre composition chimique, plus ou moins bien. Et en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que quand on regarde les vitraux, à Chartres en particulier, ce qui les rend actuellement illisibles, ce n'est pas tant la corrosion extérieure, c'est surtout l'encrassement intérieur avec les suies, les poussières grasses qui se sont déposées dessus, poussières grasses du fait des cierges, du fait de la condensation de la respiration humaine.
Surtout, oui, avec la poussière qui se dépose sur la pierre,
mais sur les vitraux, la poussière grasse se dépose sur les vitraux exactement comme sur la pierre, sauf que la pierre, on n'y a pas touché depuis plus d'un siècle, presque un siècle et demi, alors que les vitraux, on y a touché il y a un petit 60 ans. Donc, si vous voulez, les vitraux sont peu visibles actuellement à cause de la poussière, parce qu'il faut savoir que la corrosion extérieure, les dépôts de gypse, les dépôts de sulfate, de tout ce que vous voudrez, on les enlève peu ou prou, on ne les enlève jamais totalement, parce qu'on ne veut pas risquer, nous, d'attaquer en plus mécaniquement le vitrail pour le remettre propre et à blanc, puisque de toute façon, on ne peut pas le remettre à neuf, il n'en est pas question. On a la chance que dans la cathédrale de Chartres, il y a 80% au moins de pièces de vitrail authentiques du XIIIe siècle, des années 1200, entre 1220 en moyenne, hein. Donc on ne va pas encore les altérer, nous, en voulant les nettoyer, les récurer comme des casseroles. Donc si vous voulez, le nettoyage des vitraux et la protection des vitraux se fait, par la protection par des verrières de doublage extérieur qui viennent devant les verres anciens et qui empêchent l'air pollué de les attaquer, les pluies acides et tout ça, de les attaquer directement. Et on les rend visibles, tout simplement en les nettoyant à l'intérieur, avec l'impact que ça peut avoir sur la conservation de la peinture, c'est-à-dire de la grisaille, des traits qui représentent évidemment les visages, les personnages, etc., et qui sont une œuvre de peinture absolument extraordinaire, d'une étonnante virtuosité, d'une modernité, où je dirais, qui a très souvent un caractère absolument intemporel, absolument étonnant dans les formules et les gestes utilisés par les peintres du XIIIe siècle, qui font que nous devons prendre des précautions considérables pour ne pas altérer cette grisaille. Mais le miracle de Chartres, c'est que la grisaille a été très bien cuite, et qu'elle n'a pratiquement pas souffert. Donc on a peu de points d'altération de la grisaille, mais à tout le moins, on ne sait jamais d'avance, donc on prend des précautions tout à fait conséquentes pour ne pas risquer de l'altérer.
Donc déjà, avant de déposer les vitraux, on fait une étude sur place, on examine l'état des verres.
On les examine, on a eu la chance pour une partie d'entre eux de pouvoir les déposer dans le cadre de l'étude. Donc ils sont allés en atelier de maître verrier pour être photographiés, regardés, analysés avec des petites fenêtres de test. Et puis ils sont repartis, ils ont été stockés au laboratoire de Champs, au laboratoire des monuments historiques à Champs, en attendant le résultat des appels d'offres suite au dossier de consultation d'entreprise établi à partir des conclusions des maîtres verriers, chercheurs en maîtrise diplômés en sciences et techniques du vitrail.
Donc pour le vitraux, on a toutes les techniques pour les sauvegarder, autant que ça se peut. Mais alors la pierre à Chartres, la pierre de Berchère, pierre calcaire très dure, elle pose moins de problèmes, je suppose.
Ah, la pierre de Berchère nous pose très peu de problèmes. C'est une pierre absolument extraordinaire. C'est une pierre dure, une pierre froide, une pierre marbrière. Elle est assez étonnante d'aspect, c'est ce qu'on appelle une pierre éveillée parce qu'elle est pleine de trous, mais ça c'est sa nature géologique, mais ça n'a aucune incidence sur la
stabilité. C'est une pierre non gélique, donc malgré les trous, quand l'eau s'infiltre, elle ne s'éclate pas.
Elle peut, à force, depuis 800 ans, il y a des parties qui se sont fissurées, mais en réalité, les véritables problèmes que j'ai avec la pierre Chartres sur la cathédrale, c'est avec les restaurations du XIXe siècle, et les pierres mal choisies au XIXe siècle, pour remplacer certaines pierres du XIIIe qui s'étaient altérées sur 700 ans.
Donc, il manque la pierre de Percher, on a pu donc reprendre la pierre de Percher, puisqu'on a la carrière qui sert sans doute encore.
Actuellement, dans la campagne que je mène actuellement, je ne remplace pas toutes les pierres du XIXe siècle, parce qu'il y en a qui ont très bien résisté, et puis on est obligé de raison garder pour des raisons financières, des raisons économiques. Mais si vous voulez, chaque fois que c'est possible, et surtout sur des éléments majeurs, comme des corniches à l'armier, comme des choses où l'eau a une influence immédiate, je reviens à la pierre de Bercher systématiquement, ce qui ne me pose aucun problème, puisqu'en plus l'entreprise qui a obtenu le marché est propriétaire de la carrière actuellement. Donc ça nous assure un prix raisonnable de faire les travaux.
Donc il y a des décorations en pierre tendre qui, elles, s'abîment donc plus facilement.
Ce ne sont même pas les restaurateurs, non, même pas, parce que les carrières qui au Moyen-Âge ont permis la sculpture étaient déjà des carrières de très bonne qualité, des bancs calcaires du bassin parisien, comme des pierres de Vaugirard ou des éléments comme ça, des matériaux comme ça qui résistaient très bien, qui sont quand même durs et cohérents, qui ont donné plus de travail aux sculpteurs, mais qui permettaient de garder, on le voit bien sur les portails, on a déjà restauré les trois portails nord. Vous voyez bien que la statuaire n'a souffert finalement que du vandalisme.
Oui, très peu.
Un peu du vandalisme révolutionnaire, pas trop après, pas trop avant. Ce sont surtout les vitraux qui ont souffert du vandalisme, mais dès le Moyen-Âge. Mais on les a aussi toujours entretenus en fonction de ça. Mais la pierre a très bien résisté. Non, ceux qui souffrent vraiment à Chartres, mais c'est un cas qui n'est pas tout à fait rare, c'est l'introduction au XIXe siècle de pierres qui ne convenaient pas. La rose sud, on n'est pas obligé de la changer totalement, mais elle a été refaite en 1874 entièrement, sans aucun respect archéologique de celle d'origine, et on a beaucoup plus de travail pour la restaurer, parce qu'il n'est pas question de la changer, que mon prédécesseur Guinico, c'est l'occasion de rendre hommage à sa mémoire, quand il a restauré la Rose Nord.
Le temps a passé trop vite. On va refaire une autre émission avec vous, monsieur Patrice Calvel, architecte en chef des monuments historiques. Pour les auditeurs que vous voudrez en savoir plus, il y aura en mois d'octobre, le week-end du 11 au 12, à Chartres, les journées d'études sur les matériaux de construction des édifices gothiques sous la direction d'Arnaud Timbert. Pour des inscriptions, pour des renseignements, au Centre international du vitrail, téléphone 02 37 21 65 72. Au revoir, chers amis auditeurs. Merci à la technique. Au revoir. Au revoir.